le cycle des instructions sur notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai déjà eu l'occasion, il y a 3 ou 4 ans, de faire toute une série d'instructions sur notre Seigneur, mais en voyant plutôt l'aspect spirituel. Et là, cette année, nous allons étudier ce même mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sous un autre rapport, sous le rapport plus théologique. L'année dernière, lorsque nous avons parlé des sacrifices, en particulier des sacrifices de l'Ancien Testament, je me suis appuyé essentiellement sur la somme de saint Thomas. Et j'ai vu en ce moment-là que plusieurs articles étaient tout à fait accessibles aux simples fidèles. Et c'est pourquoi j'ai voulu essayer cette année de me plonger un petit peu plus dans cette somme théologique pour essayer de vous faire découvrir la vie de notre Seigneur telle qu'elle est décrite par saint Thomas. Donc nous sommes ici dans un cycle de conférences théologiques. Il est donc tout à fait normal de vous donner une approche théologique des mystères que nous étudions. Alors pourquoi avoir choisi saint Thomas? Parce que saint Thomas est appelé le docteur commun. Il est encore appelé aussi le docteur angélique, en raison de la hauteur de vue qu'il a et de la profondeur de sa science. Mais c'est vrai, comme vous le verrez, qu'il est bon de rappeler que dans ses traités, saint Thomas ne parle pas avant tout au cœur, et encore moins à la sensibilité, c'est pas du poète-poète, mais à l'intelligence. Alors pour certains, cette approche pourra paraître un petit peu sèche, ou encore un petit peu abstraite. Il va falloir s'accrocher. Mais je pense que c'est à nous, après, d'essayer de savoir tirer les conséquences spirituelles des arguments qui seront énoncés d'une façon donc un petit peu lapidaire. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'à d'autres époques, on a besoin de nourriture solide, de nourriture qui vraiment alimente notre foi. Saint Pie X, à la fin de son encyclique Pascendi, parmi les principaux remèdes qu'il préconisait au modernisme, il préconisait le retour à saint Thomas d'Aquin. Donc il faut toujours se dire que la foi n'est pas avant tout un sentiment, comme le pensent les modernistes. La foi, c'est l'adhésion de notre intelligence à la vérité révélée par Dieu. Donc, dans la partie qui a trait à notre Seigneur, saint Thomas va se poser un certain nombre de questions qui ont rapport tout d'abord à sa venue en ce monde, ensuite au développement de sa vie terrestre, ensuite à sa passion, à sa résurrection, et enfin à sa vie glorieuse au ciel. Alors la façon de répondre à toutes ces questions est toujours la même. Saint Thomas va commencer par poser quelques objections. Puis ensuite, dans le corps de l'article, il va donner la réponse générale. Et ensuite, il va répondre aux objections les unes après les autres. Et dans ces réponses, vous allez voir qu'il y a toujours deux séries d'arguments. Le premier, qui est le plus court, est un argument d'autorité. C'est souvent tout simplement une citation de la Sainte Écriture. Et ici, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cet argument d'autorité, c'est l'argument le plus fort, parce que nous sommes en théologie, nous ne sommes pas en philosophie. Alors qu'en philosophie, il faut prouver rationnellement toute proposition que l'on avance, et par conséquent, l'argument d'autorité apparaît comme le plus faible. On ne va pas dire telle proposition est vraie parce que saint Thomas l'a dit ou parce que tel philosophe l'a dit, il faut le prouver rationnellement. En théologie, au contraire, nous sommes dans le domaine de la foi, c'est-à-dire des vérités révélées par Dieu. Par conséquent, il n'y a pas d'argument plus convaincant que la parole de Dieu. Si Dieu m'a dit que c'est comme ça, c'est que ça se passe comme ça, quand bien même ma raison semblerait dire le contraire. Cependant, il faut reconnaître que, comme le disait lui-même saint Thomas, la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. Par conséquent, la foi est au-dessus de la raison, mais n'est pas contraire à la raison. Et c'est pourquoi, en général, à l'argument de foi, à l'argument d'autorité, vont s'ajouter une série d'arguments de convenance, qui ne sont donc pas les arguments les plus importants, mais qui, malgré tout, pour nous, montrent un petit peu l'ordonnance du plan divin, et montrent que ce plan est tout à fait logique. Donc, il y a une harmonie dans le plan divin, qui fait que si nous n'arrivons pas à pénétrer les mystères les uns après les autres, nous pouvons voir malgré tout le lien qu'il y a entre ces mystères et également aussi une certaine convenance à l'existence de ces mystères. Lorsqu'on suppose l'existence du mystère, cette existence étant supposée, puisqu'elle est donnée par la foi, le bien fondé de son déroulement va pouvoir apparaître en partie à notre raison. Autre intérêt à cette étude, c'est de répondre à un certain nombre d'objections qu'on entend couramment et qui sont soi-disant des objections nouvelles et que finalement, comme vous allez le voir, sont vieilles comme le monde. Alors pour essayer d'être plus clair, afin de ne pas être trop long également, je vais me contenter de résumer la pensée de saint Thomas. En sachant que la somme théologique, summa, ça veut dire résumé. C'est déjà un résumé. Donc je vais vous donner un résumé du résumé. Sans énoncer toutes les objections, sinon ce serait une gymnastique intellectuelle qui serait un petit peu trop fatigante, surtout à cette heure-ci le soir, et sans faire non plus toutes les réponses. Vu le nombre d'articles que nous allons voir, ce serait donc trop fastidieux pour nous de rentrer dans tous les détails. Mais je me contenterai donc de vous donner les arguments principaux, tout en faisant parfois allusion aux objections qui me semblent les plus importantes ou encore qui restent d'actualité. Et enfin, comme vous avez pu le voir, ceux qui ont reçu la feuille pour le plan de cette année, que j'ai essayé de suivre également un petit peu, de faire coïncider cette étude avec l'année liturgique. Et c'est pourquoi, comme nous sommes au mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, je vais aujourd'hui vous parler de la Sainte Vierge. Mais là encore, je vais suivre l'ordre des articles de saint Thomas. Par conséquent, je ne vais pas tout vous dire sur la Sainte Vierge. Ce n'est pas possible en une heure d'aborder tout ce qui peut être dit sur la Sainte Vierge. Mais je me contenterai de résumer les questions de la Somme, qui sont les questions 28, 29, 30, et si nous avons le temps, 31, et qui portent sur la sanctification de la Sainte Vierge, et son Immaculée Conception, ensuite sa virginité, son mariage, l'Annonciation, et puis ensuite, si nous avons le temps, la préparation à la conception de notre Seigneur. Et donc la fois suivante, on verra la conception de notre Seigneur, ensuite la Nativité, après sa vie cachée, sa vie publique, et ainsi de suite. Donc commençons par la première question. Chaque question se divise en articles. Question 27 de saint Thomas, de la sanctification de la Vierge Marie. Première question que se pose saint Thomas, la Bienheureuse Vierge a-t-elle été sanctifiée avant sa naissance? Premier argument, argument d'autorité, oui, car l'Église célèbre la fête de sa nativité. Donc, l'Église célèbre la fête de la nativité de la Sainte Vierge. Or, dans l'Église, on ne fête que les saints. Donc, la Sainte Vierge a été sainte dans sa naissance même. Ce qui mène à affirmer qu'elle a été sanctifiée dès le sein de sa mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour saint Thomas, la question de l'Immaculée Conception n'avait pas été tranchée. Donc après, il y a plusieurs passages qui laissent penser que saint Thomas ne croyait pas en l'Immaculée Conception. Bon, c'est une question disputée, donc on ne va pas la trancher ce soir. Mais, en tout cas, pour la question de la sanctification, là, il est clair que saint Thomas nous dit que, quand bien même la Sainte Vierge aurait eu la tâche du péché originel, ce que nous savons qu'elle n'a pas eu, en tout cas, elle était sainte à sa naissance. Et la preuve, c'est qu'il y a, nous honorons sa naissance. Et ensuite, l'argument de convenance va être tiré maintenant également encore de la Sainte Écriture à travers deux autres exemples. à savoir l'exemple de Jérémie et de Saint Jean-Baptiste. Le prophète Jérémie ainsi que Saint Jean-Baptiste ont tous les deux été sanctifiés dans le sein de leur mère, donc avant la naissance. Or, la Sainte Vierge étant supérieure, bien sûr, à ces deux autres saints, si déjà les autres saints ont été sanctifiés dès le sein de leur mère, a fortiori la très Sainte Vierge. Et même, on pourrait tirer de cet argument, justement, l'Immaculée Conception, comme elle était au-dessus des autres saints, si déjà d'autres saints ont été sanctifiés dès le sein de leur mère, il convenait que la Sainte Vierge soit sanctifiée dès le départ, et donc qu'elle soit immaculée dans sa conception. Cette sanctification de Jérémie se trouve indiquée dans la Sainte Écriture, donc dans la Bible, au chapitre 1 du livre de Jérémie, verset 5. « Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. » C'est Dieu qui parle à Jérémie. Et celle de Saint Jean-Baptiste se trouve dans Saint Luc, chapitre 1, verset 15. « Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Donc s'il est rempli de l'Esprit Saint, c'est qu'il ne peut pas être, il ne peut pas avoir la tâche du péché originel. Pourquoi Jérémie et pourquoi Saint Jean-Baptiste ont été sanctifiés dès le sein de leur mère? Pourquoi eux? Eh bien, Saint Jérémie l'a été afin de figurer par avance la sanctification que le Christ devait apporter par sa passion. Et si Jérémie a eu justement ce privilège, c'était en raison des prophéties de la passion qu'il annonçait, et puis en raison également de ses propres souffrances qu'il a endurées. Il n'y a pas de prophète à avoir souffert autant que Jérémie. Également, Saint Jean-Baptiste, s'il a été sanctifié dès le sein de sa mère, c'était en raison du baptême de pénitence qu'il devait donner pour annoncer le baptême que notre Seigneur allait donner lui-même. Et comme l'un des effets du baptême, c'est d'effacer la tâche du péché originel, pour figurer cet effet du baptême, Saint Jean-Baptiste a été sanctifié dès le sein de sa mère. Alors, pour ce qui regarde maintenant l'Immaculée Conception, il faut aller plus loin, puisque Saint Thomas lui-même n'en parle pas, ou s'il en parle, il ne donne pas encore la définition que l'Église a donnée, puisque l'Église ne s'était pas encore prononcée sur cette question. Mais il peut être intéressant de voir ce que peut dire le Père Sineux, un dominicain, qui a commenté la Somme théologique. Et voici ce qu'il dit au sujet de cette Immaculée Conception. Parce que Dieu est la sainteté même, il exige des créatures appelées à l'honneur de collaborer avec lui, non pas une sainteté égale à sa perfection absolue, qui leur serait inaccessible, une créature est toujours bien inférieure au bon Dieu, mais une sainteté à leur mesure, à savoir au moins l'exemption de toute souillure ou déchéance, la pureté et la perfection qui conviennent à leur nature. Le tabernacle, cette tente d'étoffe précieuse dressée au milieu du camp des Hébreux pour abriter l'arche d'alliance, était l'objet de lustrations rituelles destinées à en faire un lieu saint. Combien plus la personne humaine appelée à donner asile au Verbe incarné devait-elle être sanctifiée? Donc ici, bien sûr, si la Sainte Vierge a été immaculée dans sa conception, c'est en raison de l'intimité qu'elle devait avoir avec notre Seigneur. Devant mettre au monde l'homme-Dieu, il convenait qu'elle n'ait pas la moindre souillure. Autant la dignité de mère du Messie l'emporte sur celle du prophète ou du précurseur, donc de Saint Jean-Baptiste, autant il convient que Marie soit dotée d'une sainteté plus haute que celle dont furent gratifiés Jérémie et Jean-Baptiste. Or, de sanctification plus éclatante que celle qui est antérieure à la naissance, il n'y a que celle qui date de la conception même. Donc, c'est l'argument que je vous avais donné tout à l'heure. Il y a bien ce péché de nature qui, depuis la faute d'Adam, est devenu l'inexorable loi frappant tout homme dès son accession à la vie. Donc le fait que le péché originel n'était pas un péché personnel, mais un péché de nature, c'est la nature humaine tout entière qui est affectée par le péché. Mais il y a justement une exception, le bon Dieu étant le bon Dieu, il peut exempter une créature de cette loi. Mais la loi du péché, pas plus qu'aucune loi de la nature, ne saurait barrer la route à la puissance de Dieu. N'a-t-il pas résolu depuis l'origine du monde de porter remède au péché? Et s'il en guérit la blessure dans l'ensemble des âmes, ne lui est-il pas aussi simple de les en préserver? Donc, alors que les autres âmes ont des grâces de purification, la Sainte Vierge, elle, a eu une grâce préservatrice, donc une grâce par anticipation. Il y a bien encore ce plan divin de la rédemption, plan irréformable et qui ne souffre pas d'exception, donc la Sainte Vierge a dû être rachetée comme les autres, en vertu duquel le genre humain ne sera délivré de la servitude du péché que par le Verbe incarné, unique sauveur. Soustraire la Vierge Marie à ce salut par le Christ équivaudrait à la retrancher de la race humaine pour en faire une personne d'une espèce à part. Mais rien n'empêche que Marie soit tout ensemble immaculée et sauvée. La seule chose, c'est que nous sommes sauvés donc après, et elle l'a été par anticipation. Qu'elle bénéficie par anticipation des mérites du Rédempteur, aucune difficulté à cela. Aussi bien que Jean-Baptiste, elle peut dire « Celui qui vient après moi, qui est sorti de moi, mon Fils divin, existait avant moi. L'Éternel domine le temps et ne suborne pas son action à la succession des événements. » Dès lors, les fruits de la passion du Christ, déjà certains avant la réalisation dans le temps, et constamment présents devant Dieu, pourquoi ce Dieu n'en accorderait-il pas le bienfait à ses élus? Et là, donc, le Père Sineux précise, en parlant des patriarches et des prophètes qui ont vécu dans l'Ancien Testament, qui aujourd'hui sont au ciel, ils ont bénéficié par anticipation des mérites du Christ. Patriarches et prophètes antérieurs au Christ ont été justifiés et sanctifiés en raison des effets de la rédemption déjà considérés comme acquis. Or, si cette application salutaire est faite à l'un au cours de sa vie, à l'autre avant sa naissance, pourquoi ne le serait-elle pas à un troisième dès l'instant de sa conception? C'est là précisément la faveur concédée à Marie et à elle seule. Traitement exceptionnel par conséquent, qui, sans la mettre en dehors de la postérité d'Adam et de la loi du péché qui régit toute sa race, la préserve néanmoins d'en subir les atteintes et lui confère une sainteté hors pair. Ainsi, peut lui être décerné, sans réserve, le titre de pleine de grâce, lequel ne se justifierait pas si elle avait été touchée par le péché, ne fût-ce qu'un instant de son existence. Alors, dernière objection, qu'il pose sous forme de question à laquelle il répond, faudrait-il craindre, comme l'ont fait certains théologiens antérieurs à la proclamation du dogme, que cette immunité totale du péché ne soit une usurpation par la Vierge d'un privilège qui doit être réservé au Christ en raison de l'union hypostatique? En disant, si la Sainte Vierge est si sainte dès sa conception, en ce moment-là, elle devient l'égale du Christ. Or, ça ne va pas, puisqu'elle est une simple créature. Réponse, la confusion n'est pas possible. L'humanité du Christ est exempte du péché et toute sainte de plein droit, de par son appartenance à la personne du Verbe, tandis que la Vierge Marie n'est dispensée du péché que par une faveur toute gratuite et en vertu de la rédemption accomplie par le Christ. Donc, ça ne se passe pas de la même manière pour notre Seigneur et pour la Sainte Vierge. Le Christ, s'il est né sans souillure, c'est de plein droit, parce qu'il est le Verbe de Dieu, le Verbe incarné, et la Sainte Vierge, c'est par un don gratuit de Dieu. Alors revenons maintenant à Saint Thomas. La Sainte Vierge, donc, est sainte dès sa conception. Non seulement elle est sainte dès sa conception, mais même, pas dès sa naissance, pardon, mais dès sa conception, comme on vient de le voir. Maintenant, autre question, ça va être des questions qui vont découler de ces prémices que l'on vient de voir. Est-ce que le germe de la concupiscence a existé dans la bienheureuse Vierge? L'argument, tout d'abord, d'autorité. Il est écrit, ça c'est au livre de Cantique des Cantiques, qui annonçait également la Sainte Vierge, « Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de tâche en vous. » Donc la Sainte Vierge n'a pas eu la concupiscence puisqu'elle était annoncée comme étant sans tache. Alors l'argument de convenance, préservée du péché originel, la bienheureuse Vierge n'eut à subir en aucune façon le germe de la concupiscence. Tel était Adam avant son péché, telle elle fut par le privilège de sa conception. Qu'est-ce que c'est que cette blessure et la concupiscence? La blessure et la concupiscence, c'est la révolte de la partie inférieure de notre être contre la partie supérieure. Adam et Ève avaient ce don préternaturel, qu'on appelait ce don d'intégrité, qui permettait cette soumission parfaite des passions à la raison. Mais lorsque la raison s'est révoltée contre Dieu, en conséquence, les passions se sont révoltées contre la raison. Et nous-mêmes, qui héritons donc de cette tâche du péché originel, bien que cette tâche disparaisse par le baptême, il reste en nous, malgré tout, cette révolte de la partie inférieure contre la partie supérieure. Et c'est ce qu'on appelle la blessure de concupiscence. Mais comme la Sainte Vierge donc, n'avait pas eu cette tâche du péché originel, elle n'a pas connu non plus cette révolte des passions contre la raison. Donc ça a toujours été sa raison qui a été maîtresse en elle. Elle n'a pas connu la moindre révolte de la partie inférieure contre la partie supérieure. La bienheureuse Vierge a-t-elle été préservée de tout péché actuel ? Argument d'autorité, saint Augustin disait « Quand il s'agit du péché, je ne veux pas, pour l'honneur du Christ, qu'il soit question de la bienheureuse Vierge. » Argument de convenance, donc l'autorité là s'appuie sur un docteur de l'Église. Choisie pour être la mère de Dieu, la Vierge Marie a dû être digne de remplir cette fonction. Elle ne l'aurait pas été si jamais elle eût péché. Outre que le déshonneur des parents rejaillit sur les enfants, il est écrit « La sagesse n'habitera point dans un corps soumis au péché ». Il faut dès lors reconnaître que la Vierge Marie n'a commis aucun péché actuel, ni mortel, ni véniel, et qu'elle réalise ces paroles, qu'on a déjà signalées tout à l'heure, « Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, il n'y a point de tâche en vous ». Donc ça, bien sûr, c'est des choses que nous savions déjà, que la Sainte Vierge donc, n'a jamais péché. Alors ça, c'est la partie négative, le fait qu'elle n'ait pas péché. La partie positive, c'est la plénitude de grâce. Donc on avance petit à petit. Elle n'avait pas eu la concupiscence, elle n'a pas péché. Maintenant, la question de la grâce. La bienheureuse Vierge a-t-elle reçu la plénitude de toutes les grâces ? Argument d'autorité, l'a tiré de Saint Jérôme. Saint Jérôme expliquant cette parole, « Vous êtes pleine de grâce », disait, « La grâce a été donnée aux autres avec mesure, Marie en a reçu toute la plénitude. » Argument de convenance, « Le Christ est comme Dieu l'auteur de la grâce, et comme homme l'instrument. » Le Christ en tant qu'homme est instrument de la grâce. « Plus rapproché de lui que nulle autre créature, la bienheureuse Vierge, dont il a reçu la nature humaine, a dû évidemment en recevoir une grâce supérieure à celle de toutes les autres créatures. » Donc, comme on l'a vu, la Sainte Vierge étant supérieure à toutes les autres créatures, a dû recevoir aussi une grâce supérieure aux autres. Et donc, même la plénitude de la grâce. Alors là, à nouveau, en disant que la Sainte Vierge est pleine de grâce, une objection se pose. Si la Sainte Vierge est pleine de grâce, elle est encore du même niveau que le Christ. Or, ce serait porter peut-être ombrage au Christ que de croire que sa mère aurait eu le même privilège que lui. Donc voici l'objection. La plénitude ou la perfection de la grâce n'est-elle pas le privilège incommunicable du Christ ? Lui dont il est écrit, « Nous avons vu le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. » C'est la fin du dernier évangile qu'on lit tous les jours à la messe. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et la réponse que donne saint Thomas, « Chacun reçoit de Dieu la grâce qui convient à son rôle. Le Christ, en tant qu'homme, a été choisi pour être fils de Dieu, prédestiné en vertu de sa sanctification. Aussi lui appartient-il en propre d'avoir une telle plénitude de grâce qu'elle déborde sur tous. » Suivant le mot de saint Jean, « De sa plénitude, nous avons tous reçu. » Quant à la bienheureuse Vierge Marie, elle a obtenu une si grande perfection de grâce qu'elle a été placée dans le voisinage le plus immédiat de l'auteur de la grâce. Par suite, elle a abrité en elle celui qui est rempli de toute grâce, et en l'enfantant, elle a déversé en un sens sur tous la grâce. Alors ici, c'est intéressant parce que saint Thomas montre comment La Sainte Vierge a eu à un titre différent, mais a eu également donc une vocation universelle. On voit déjà apparaître ici sa vocation de médiatrice. Dans la mesure où elle a abrité l'auteur de la grâce et où elle l'a enfanté, elle a déversé sur nous tous la grâce, par notre Seigneur, bien sûr. Donc c'est par elle qu'on a reçu l'auteur de la grâce, elle est donc d'une certaine mesure le canal de toutes les grâces. Donc voilà pour cette question 27 qui traitait de la sanctification de la Sainte Vierge. Ça va? Vous dormez pas? C'est bon? C'est pas trop dur? On passe à la deuxième question. La deuxième question maintenant va toucher à la virginité de la Très Sainte Vierge. Première question, la bienheureuse Marie, a-t-elle été vierge dans la conception du Christ? Isaïe avait dit, « Voilà qu'une vierge concevra. » Chapitre 7, verset 14. Donc là, c'est l'autorité, l'argument d'autorité qui est tiré de la Bible. « Une vierge concevra. » Alors maintenant, les arguments de convenance. Premier argument. Notre Seigneur devait naître d'une vierge parce qu'étant vrai fils de Dieu par nature, le Père qu'il a envoyé devait conserver son titre de Père. Or, Dieu aurait en quelque sorte abdiqué sa paternité si le Christ, fils de Dieu, au sens vrai et naturel, avait eu un autre Père que Dieu. Si notre Seigneur avait eu un Père sur terre, il aurait en quelque sorte dépouillé par là même son Père du ciel, de la paternité, ce qui, bien sûr, ne convient pas. Deuxième argument, étant donné l'excellence de l'humanité de notre Seigneur, il ne convenait pas non plus que sa naissance entraînât la moindre corruption chez sa mère. Et c'est pourquoi sa naissance ne devait pas provoquer la perte de la virginité de Notre-Dame. Troisième argument, il fallait, dit saint Augustin, que par un insigne miracle, notre chef naquit selon la chair d'une mère vierge, pour nous faire entendre que ses membres naîtraient spirituellement d'une autre vierge qui est l'Église. Donc Notre-Dame est vierge, et cela aussi en tant que symbole de l'Église, qui est également vierge puisqu'elle est sans tache et sans souillure. Alors ici, il y a des objections intéressantes, parce que ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Si notre Seigneur n'a pas eu de père ici-bas, pourquoi Saint Joseph est-il appelé son père? En effet, il est écrit dans Saint Luc, chapitre 2, verset 33, « Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qu'on disait de lui. » Également, toujours dans le même chapitre, au verset 48, la Sainte Vierge dit ceci, « Votre père et moi, nous vous cherchions tout éplorés. » Alors, d'après Saint Bède, Saint Joseph est nommé Père de Jésus parce qu'il passait pour tel aux yeux des gens. Et d'après Saint Augustin, il est nommé Père de Jésus à cause du lien du mariage. D'ailleurs, comme le dit très bien Saint Augustin, ne l'aurait-on pas appelé Père de notre Seigneur alors qu'il aurait été appelé Père de l'enfant qu'il aurait adopté, même si son épouse ne l'avait pas engendré? Autrement dit, si l'adoption suffit pour qu'on utilise le terme de père, pourquoi refuser ce nom à Saint Joseph qui a pris soin de l'enfant Jésus comme si c'était son enfant le plus cher? Deuxième objection, qui est aussi intéressante. Saint Matthieu prouve que le Christ est fils d'Abraham et de David. Parce que Joseph descend de David. Le motif, ce serait que Joseph descend de David, donc le Christ est fils d'Abraham et de David. Or, dit l'objection, cette preuve serait nulle si Saint Joseph n'avait pas été le père du Christ. Si notre Seigneur descend de David par Saint Joseph, comme le laisse entendre Saint Matthieu, Saint Joseph est donc bien le Père de notre Seigneur. Réponse à l'objection. Saint Jérôme donne deux motifs à la généalogie donnée par Saint Matthieu. Tout d'abord, ce n'était pas l'usage de la Sainte Écriture de suivre dans les généalogies l'ascendance maternelle. C'est pourquoi il n'est pas fait allusion à la Sainte Vierge, mais à Saint Joseph. Deuxièmement, et c'est là l'argument de poids, bien sûr, Joseph et Marie appartenaient bien à la même famille. Aussi, la loi avait-elle obligé Joseph à épouser Marie, à épouser la Sainte Vierge, en raison de sa parenté avec elle. Donc, la généalogie présentée par Saint Matthieu garde toute sa valeur. Dans la mesure où ils sont parents, donc la Sainte Vierge, comme Saint Joseph, descendait de David. Et c'est pourquoi on les verra, d'ailleurs, aller pour le recensement à Bethléem, qui était la cité de David. Et la Sainte Vierge va avec Saint Joseph, puisque c'était également là qu'elle devait se faire recenser. Troisième motif que donne Saint Augustin, la généalogie de Jésus a été dressée jusqu'à Joseph, afin que dans ce mariage, aucun tort ne fût causé au mari, qui est d'ordinaire le principal des conjoints. Il n'en résultait d'ailleurs aucun préjudice pour la vérité, puisque Joseph et Marie étaient tous deux de la race de David. Donc voilà pour la question de la virginité. Donc là, c'était la bienheureuse Marie, a-t-elle été vierge dans la conception du Christ? On a répondu que oui. Donc maintenant, nous avançons. La mère de Dieu a-t-elle été vierge maintenant dans l'enfantement? Non plus dans la conception, mais dans l'enfantement. Argument d'autorité, toujours Isaïe. Après avoir dit, voici qu'une vierge concevra, il a ajouté, et enfantera. Voici qu'une vierge enfantera. Donc, argument d'autorité. Alors l'argument de convenance maintenant. La mère du Christ demeura vierge dans l'enfantement. Rien n'était plus convenable. Comment le Verbe substantiel qui est Dieu n'aurait-il pas sauvegardé en naissant la virginité de sa mère? Se pouvait-il que venant effacer nos souillures, il flétrit ce qui était intact et amoindrit par sa naissance l'honneur et la dignité de sa mère? Et là, après, dans les réponses aux objections, il précise en disant « La naissance du Christ fut un miracle de la puissance divine. Aucun obstacle, dit très bien saint Augustin, ne pouvait arrêter un corps uni à la divinité. Celui que plus tard on a vu marcher sur les eaux et entrer dans le cénacle les portes fermées, a pu certainement venir au monde sans préjudice pour la virginité de sa mère. » Donc là, c'est un argument qui est tiré de la toute-puissance de notre Seigneur. Alors maintenant, autre question d'actualité, la mère de Dieu est-elle demeurée vierge après l'enfantement? Alors ici, saint Thomas répond, nous devons repousser la doctrine d'Helvidius, ça montre que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont leurs partisans, qui prétendait que la mère du Christ avait eu plus tard d'autres enfants. Une erreur pareille fait injure au Christ, au Saint-Esprit et à la dignité de la Sainte Vierge, qui eût été la plus ingrate des créatures, si après avoir enfanté un tel fils, elle avait volontairement sacrifié sa virginité miraculeusement conservée. Alors malgré tout, il y a des objections. Une des objections est la suivante. Le mot de premier-né appliqué au Christ n'implique-t-il pas qu'il eut des frères puis nés? Si on utilise le terme premier-né, c'est qu'il aurait eu d'autres frères. Réponse à l'objection. Dans les divines écritures, on appelle premier-né l'enfant qui naît le premier, même s'il n'est pas suivi de frères. Autrement, s'il n'y avait de premier-né que l'enfant qui a des frères, la loi ne devrait pas réclamer les premiers-nés aussi longtemps que d'autres enfants ne sont pas venus au jour. Or, cela est manifestement faux, car un mois après la naissance des premiers-nés, la loi exigeait de les racheter. Donc on utilisait toujours le terme de premier-né, sans savoir si ce premier-né serait suivi d'autres enfants. Alors maintenant, une objection paraît encore plus corsée. D'ailleurs, saint Jean mentionne ses frères de Jésus. Alors là, que répondre? Moment d'angoisse. Certains ont cru, remarque saint Jérôme, que les frères du Seigneur avaient pour mère une autre femme de Joseph. Mais nous, nous pensons que les frères du Seigneur ne sont pas des fils de Joseph, mais des cousins germains du Sauveur, fils d'une Marie qui était la tante maternelle de Jésus. On voit en effet dans la Sainte Écriture quatre façons d'être frère. On peut être frère par la nature, on est frère encore par la race, on est frère par la parenté et on est frère par l'affection. Les frères du Seigneur ne sont pas tels selon la nature, car ils ne sont pas nés de la même mère que Jésus. Mais ils le sont de par la parenté, car ils sont du même sang que lui. Quant à Joseph, il y a de sérieuses raisons de croire, d'après saint Jérôme, qu'il est demeuré vierge, car les Écritures ne nous disent pas qu'il ait jamais eu une autre femme. D'autre part, jamais un homme aussi saint n'aurait pu succomber à un péché de la chair. Donc voilà, réponse aux objections, soupir de soulagement. Mais c'est vrai que c'est important parce que, et ça vous montre toujours, vous voyez, l'intérêt pour nous de lire la Sainte Écriture toujours avec des commentaires, parce qu'il y a des gens qui se troublent bêtement en tombant sur la Bible, en lisant des passages d'Évangile, et comme ils n'ont pas la clé, ils disent, mais alors, pourtant, on parle des frères, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un exemple, mais... Donc c'est très important d'avoir les commentaires pour pouvoir répondre aux objections. Autre question intéressante, est-ce que la Mère de Dieu avait fait vœu de virginité? Marie répondit à l'ange, « Comment cela pourra-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. » Elle n'aurait pas parlé de la sorte, reprend saint Augustin, si elle n'avait pas voué à Dieu sa virginité. Alors le développement que donne saint Thomas est le suivant. La bienheureuse Vierge, avant son mariage avec Joseph, n'avait pas fait vœu de virginité d'une manière absolue. Elle s'en était remise avec confiance aux dispositions de la divine sagesse. Sous la loi ancienne, c'était un devoir pour les femmes et pour les hommes de concourir à l'accroissement de la nation. Mais lorsqu'elle eut pris un époux, comme l'exigeaient les mœurs du temps, la virginité qu'elle devait posséder à un degré suréminent reçut du consentement de saint Joseph la consécration d'un vœu. Donc au départ, c'était toujours l'abandon à la divine providence, c'était ce que le bon Dieu attendrait d'elle. Mais ensuite, comme le bon Dieu parle par les événements, que saint Joseph a bien sûr consenti à conserver la virginité, c'était pour elle le signe que le bon Dieu le voulait ainsi. Alors après la sanctification de la Sainte Vierge, après sa virginité, parlons maintenant de son mariage, du mariage de la Mère de Dieu. C'est la question 29. Article 1. Le Christ devait-il naître d'une Vierge mariée? Donc réponse, argument d'autorité. Il est dit dans l'Évangile comme Marie, mère de Jésus, était mariée à Joseph. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18. Je ne comprends pas d'ailleurs que dans les traductions, souvent en français, on dit fiancée à Joseph. Alors que c'est mariée, desponsata. Donc comme Marie, mère de Jésus, était mariée à Joseph. Et encore, l'ange Gabriel fut envoyé à la Vierge Marie, marié à un homme nommé Joseph. Saint Luc, maintenant, chapitre 1, verset 26. Argument de convenance. Il convenait pour le Christ lui-même, pour sa mère et pour nous, que la bienheureuse Vierge fût mariée. Donc là, il va donner maintenant quatre arguments. Premier argument, le Sauveur, si elle ne l'avait point été, aurait pu être regardé par les païens comme un enfant illégitime. Il n'était pas marié. Les Juifs n'auraient pas consigné sa généalogie dans la série de leur génération, où l'on ne tenait compte que des hommes. Et le divin enfant, privé de la tutelle d'un père, manquant peut-être de nourriture, aurait été en butte à plus de violence encore de la part des démons. En second lieu, donc deuxième argument maintenant, la mère de Jésus, mise par le mariage à l'abri des sévérités de la loi contre les adultères, était en même temps préservée de toute infamie. Se pouvait-il qu'au moment où les signes de sa grossesse apparaîtraient, elle eût à rougir comme une personne qui a perdu son honneur? Ajoutez que les soins et les bons offices de Joseph lui étaient nécessaires. Troisièmement, une telle disposition était utile pour nous, qui apprenons de Joseph lui-même que Jésus est né d'une vierge. Or, comme le disait saint Ambroise, il est un témoin d'autant plus irrécusable de la virginité de Marie qu'il aurait pu, s'il n'avait pas connu le divin mystère, se plaindre d'une injustice et venger son opprobre. Marie, attestant sa propre virginité, a aussi la plus grande autorité. Si elle n'avait pas été mariée, on aurait pu croire qu'à l'aide d'un mensonge, elle cherchait à déguiser sa honte. Au lieu qu'engagée dans le mariage, elle n'avait aucun sujet de feindre. La fécondité de la femme est le bonheur et l'honneur des familles. D'un autre côté, il ne convenait pas de laisser aux vierges imprudentes qui s'exposent à l'infamie cette excuse que la mère du Sauveur aurait paru déshonorée. Enfin, Marie fut à la fois épouse et vierge pour honorer dans sa personne et la virginité et le mariage. Autre question qui a trait maintenant encore à ce mariage, y a-t-il eu vraiment un véritable mariage entre Marie et Joseph? Marie et Joseph entrèrent dans le mariage sans aucune autre condition que d'y accomplir la volonté de Dieu. Ils s'unirent conséquemment par un véritable mariage. Aussi l'ange appelle-t-il Marie l'épouse de Joseph, bien qu'il n'y ait pas eu et qu'il ne dût jamais exister d'union maritale entre eux. C'était, dit saint Ambroise, un témoignage rendu à la vérité et à la légitimité de leur mariage. Saint Augustin ajoute, tous les biens renfermés dans le mariage se trouvent dans celui de Joseph et de Marie, l'enfant, la fidélité mutuelle, et puis enfin le sacrement. L'enfant était notre Seigneur Jésus-Christ, la fidélité était cette fidélité que Marie et Joseph s'étaient promises, et le sacrement, l'indissolubilité de leur union. Ça va? C'est bon? La gymnastique intellectuelle, ça va? C'est pas trop difficile? On voit beaucoup de questions en peu de temps. Donc maintenant, on va peut-être bientôt arrêter par là, mais je vais quand même traiter au moins la question de l'Annonciation. Donc vous pouvez vous réveiller, il ne reste plus que quelques minutes. Concernant cette Annonciation de la Sainte Vierge, était-il nécessaire d'annoncer à Marie le mystère qui est l'Annonciation de la Sainte Vierge? L'argument d'autorité. L'autorité de l'Écriture est suffisante. L'ange lui dit, « Voilà que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils. » Saint Luc, chapitre 1, verset 31. On peut signaler dans le fait de l'Annonciation plusieurs sortes de convenances. Premier argument, l'union du Fils de Dieu avec Marie devait, pour suivre l'ordre légitime, se former dans l'âme de la Vierge avant de s'accomplir dans son sein. Et c'est ce qui fait dire à saint Augustin, Marie fut plus heureuse en recevant la foi du Christ qu'en concevant sa chair, actuellement, avant de le concevoir physiquement. Ensuite, le message de l'ange lui fournit pour elle-même l'occasion d'offrir à son Dieu l'hommage de sa soumission volontaire. La présence de l'ange lui permet de répondre d'une façon libre, et donc d'une façon volontaire et libre. Ce qui lui a permis, bien sûr, d'acquérir un très grand mérite lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Enfin, l'Annonciation nous révélait qu'une sorte de mariage spirituel allait s'établir entre le Fils de Dieu et la nature humaine. Et c'est pour cela que le messager du ciel attendit que Marie eût donné son consentement au nom de la nature humaine tout entière. Donc cette annonciation avait pour but de permettre à la très sainte Vierge de répondre son oui au nom de l'humanité entière, comme nos premiers parents avaient dit non au nom de la nature humaine et donc de tous les hommes également. Donc c'était le pendant au refus de nos premiers parents que ce oui de la très sainte Vierge. Donc ce oui ne la concernait pas uniquement en tant que personne, mais ce oui renfermait tous les hommes, ou au moins tous ceux qui accepteraient de suivre le Christ. Donc il convenait que ce mystère de la venue de notre Seigneur soit annoncé. Maintenant, après avoir vu la convenance de l'annonciation prise en elle-même, la convenance maintenant de la présence d'un ange. L'annonciation a-t-elle dû être faite par un ange? Là, nous avons encore l'argument bien sûr d'autorité. Il est écrit « L'ange Gabriel fut envoyé de Dieu » Saint Luc, chapitre 1, verset 26. Maintenant, les arguments de convenance. La Providence veut que les choses divines soient transmises aux hommes par l'intermédiaire des anges. Donc, c'est dans le plan de Dieu que les anges soient intermédiaires entre Dieu et nous. Deuxième argument, un mauvais ange avait contribué à la ruine du genre humain. Un bon ange devait aider à sa réparation. Donc ça montre toujours comment le bon Dieu agit par réplique. C'est le démon qui a tenté Ève, il fallait que ce soit un bon ange qui apparaisse à la nouvelle Ève. Troisième argument, il y eut toujours une sorte d'alliance entre les esprits angéliques et la virginité. Car vivre dans la chair sans en subir les atteintes, c'est vivre de la vie du ciel. Donc la Sainte Vierge étant vierge, il convenait qu'elle ait cette familiarité avec les anges en raison de cette vie spirituelle intense qu'elle avait. Pour ces trois raisons, il convenait qu'un ange annonçât le mystère de l'incarnation à la Vierge que Dieu avait choisie pour sa mère. Alors maintenant, après avoir répondu qu'il convenait que ce soit un ange qui apparaisse, est-ce qu'il convenait que cet ange apparaisse sous forme corporelle? Alors ici, l'argument d'autorité. Saint Augustin, dans un de ses sermons, prête à la Vierge ses paroles. L'archange Gabriel est venu à moi, la face éclatante, en un vêtement étincelant, dans un port admirable. Or, tous ces traits ne peuvent s'accorder qu'à une apparition corporelle. C'est donc sous la forme d'un corps que l'ange annonciateur est apparu à la Bienheureuse Vierge. Maintenant, les arguments de convenance. L'ange dut apparaître à Marie sous une forme corporelle pour plusieurs raisons. Il venait annoncer que Dieu, invisible de sa nature, allait devenir visible par l'incarnation. Pour mieux exprimer ce mystère, il prit lui-même la forme d'une créature visible. Le bon Dieu voulant devenir visible, l'ange est apparu de façon visible. Deuxième argument, la Bienheureuse Vierge allait recevoir non seulement dans son âme, mais dans son sein le Fils de Dieu. Une si grande dignité demandait que son âme et ses sens extérieurs fussent en même temps fortifiés par une vision angélique. Donc, en raison de la mission propre de l'ange, il convenait que la Sainte Vierge soit frappée non seulement dans son esprit, mais également dans sa sensibilité en voyant cet ange. Enfin, troisième argument, l'existence du mystère de l'incarnation s'établissait par là avec plus de certitude. Les choses sensibles nous impressionnent plus que celles qui frappent seulement notre imagination. Sur le point de recevoir la révélation du plus grand des événements, dit Saint Jean Chrysostome, la Vierge avait besoin de voir clairement le messager qu'il annonçait. Si ça n'avait été qu'une imagination, elle aurait pu peut-être penser que c'était justement le fruit de son imagination et non pas une apparition d'un ange. Parce que là, quand on voit quelqu'un en face de soi, c'est quand même différent. Alors maintenant, dans les objections que pose Saint Thomas et auxquelles il répond, il fait allusion à son trouble. Comment ça se fait que la Sainte Vierge soit troublée? Et il répond en disant, son trouble s'explique par l'apparition imprévue d'une puissance supérieure et par sa modestie virginale. Il appartient aux Vierges, dit très bien Saint Ambroise, de trembler à l'approche des hommes et de redouter tout entretien avec eux. D'autres prétendent qu'accoutumée à des visions angéliques, elle fut troublée non par l'aspect de l'ange, mais par l'annonce à laquelle elle était loin de s'attendre, n'ayant jamais songé que de si grandes choses dussent s'accomplir par elle. Ils font remarquer que selon l'Évangile, Marie fut troublée à la parole de l'ange et non à sa vue. Alors c'est très beau de penser à ce trouble provoqué par cette annonce qui montre à nouveau cette humilité de la Sainte Vierge qui ne pensait pas être digne d'une si grande mission. Enfin, dernier article de la dernière question. Donc là, maintenant, ceux qui dorment, il est vraiment temps de vous réveiller. C'est bientôt terminé. Il va falloir rentrer à la maison. L'annonciation a-t-elle eu lieu dans un ordre parfait? Argument d'autorité, que j'apprécie beaucoup, qui est tiré de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, verset 1. C'est clair, mais c'est dit en peu de mots. Les choses qui viennent de Dieu sont bien ordonnées. L'annonciation se fit donc dans l'ordre le plus convenable. Et saint Thomas insiste beaucoup là-dessus. On voit bien d'ailleurs qu'il était lui-même très ordonné, comme on le voit dans la Somme, où il agit toujours d'une façon très claire et très ordonnée. Ensuite, il développe en disant, l'ange excite en premier lieu l'attention de Marie par cette parole pleine de grâce. Il lui fait ainsi pressentir qu'elle est digne de concevoir le Fils de Dieu, ce qu'il confirme en disant, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. En second lieu, il instruit Marie du mystère de l'incarnation qui doit s'opérer en elle. Vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils qui sera grand. Bientôt, il fait connaître le mode d'une telle conception. L'Esprit Saint viendra en vous. Il s'agit enfin d'obtenir le consentement de Marie, et c'est à quoi il s'applique en prouvant, par l'exemple d'Élisabeth et par une raison puisée de la toute-puissance de Dieu, la possibilité d'une conception miraculeuse. Donc voilà comment tout s'est fait, vous voyez, d'une façon ordonnée. Alors je pense que c'est justement un des grands intérêts de cette étude. Bien sûr que ce sont des choses que nous savons déjà, mais c'est de voir toujours cette harmonie dans le plan de Dieu. Saint Thomas a bien saisi cette harmonie du plan divin, et cela donc est très satisfaisant pour l'esprit, et ça fait du bien. Comme on vit dans une époque de scepticisme ambiant, Saint Thomas dit, moi je pense que, à mon avis, non, c'est toujours très clair, il faut dire que, c'est toujours dicendum quod. Donc il pose une question, et puis à la réponse, il donne toujours dicendum quod, donc il faut dire que. C'est pas moi, à mon avis. Alors, bien sûr qu'il y a des questions disputées, je reconnais. Et lui-même, en ce moment-là, cite, lorsque l'Église n'a pas tranché, lui-même, qui était d'une intelligence supérieure, savait très bien que son rôle n'était pas de trancher nécessairement ce que l'Église n'avait pas tranché. Mais, dans les questions, justement, où l'Église avait tranché, il savait toujours la défendre par des arguments qui étaient convaincants. Voilà, donc nous continuerons la prochaine fois, ceux qui ne vont pas craquer, en voyant la question maintenant de la conception de notre Seigneur. Donc c'est les questions du corps du Sauveur, du principe actif de sa conception, du mode et de l'ordre de sa conception, des privilèges de Jésus en sa mère et de sa nativité. Donc ça, c'est ce que nous essaierons d'aborder la fois prochaine. Voilà.